RCF. Il y a bien des manières d'aborder la montagne. Certains préfèrent la regarder de loin, trouvant un peu fou ceux qui risquent leur vie à la gravir. D'autres ne peuvent se contenter de la regarder, ils ont besoin d'aller toujours plus haut. Il y a les solitaires, il y a ceux pour qui la montagne rime avec partage. Hugues Chardonnet, bonjour.
Bonjour.
Pour vous, il n'y a pas de doute, la montagne est avant tout un lieu de rencontre et un lieu de partage. Vous êtes guide, médecin et diacre de l'Église catholique. Vous vivez à Briançon, où vous pratiquez la médecine du sport, et vous avez fondé 82-4000 Solidaires, une association qui a pour vocation d'emmener en montagne des jeunes en difficulté ou des jeunes de milieux défavorisés. Alors nous aurons l'occasion de découvrir cette association au cours de cette émission. Mais tout d'abord, vous êtes né, Hugues Chardonnet, en 1958, non pas à Chamonix ou à Saint-Gervais, comme beaucoup de guides, ni à Briançon d'ailleurs, mais vous êtes né dans la région parisienne. Comment vous est venu le goût de la montagne, à vous le petit Parisien ?
Comme la plupart des guides des promotions actuelles, nous venons des grandes villes en fait, hein, essentiellement, et chacun a son histoire qui l'a rapproché de cet environnement exceptionnel de l'altitude, de la haute montagne. Et bon, donc chacun avec la sienne d'histoire. Moi, effectivement, je suis né à Paris, dans les hasards d'une vie familiale de gens de province qui sont venus chercher du travail. Et c'est le bonheur d'une rencontre extraordinaire lorsque j'étais tout jeune, d'amis, disons les parents d'un garçon avec lequel j'étais en classe, qui m'ont invité dans leur chalet, des gens généreux. Et voilà comment j'ai eu ce contact avec la montagne. Donc peut-être que vous en dites plus.
Oui, vous aviez quel âge à ce moment-là, quand vous avez découvert la montagne?
Alors la première fois que je suis allé en montagne avec eux, parce qu'ils m'ont invité, dans leur chalet qui s'appelle Rencontre, dans la vallée de Chamonix.
Très joli.
Il
n'y
a pas de
déjà.
Hasard, voilà, exactement. Hein. Rencontre, ça, c'était déjà signifiant de ce qu'ils portaient en eux, des gens très généreux. Et un chalet toujours ouvert, plein de monde. Là, c'était donc, j'avais 8 ans la première fois, quelque chose comme ça, oui, 8 ans. Et le choc qui pour moi était vraiment très très fort, c'est grâce à eux, j'ai rencontré des gens qui faisaient de la haute montagne, après avoir fait un peu de ski, de rando, enfin comme tout le monde là-bas, on va dire. Hein. Et puis en particulier un ami prêtre qui avait fait beaucoup d'alpinisme et nous a emmenés faire une course magnifique dont je garde un souvenir extrêmement précis. J'avais 12 ans et on est allé faire l'Aiguille du Tour, qui est une course considérée comme facile, hein, mais une course de haute montagne où au petit matin, juste à l'heure du lever de soleil, on s'est retrouvé au col supérieur du Tour et là on débouche sur un immense plateau glaciaire, le plateau de glaciaire du Trian, sur lequel le soleil était en train de se lever. C'était d'une beauté. Moi, ça m'a troublé. Je m'en souviens encore. J'ai encore de l'émotion quand j'en parle, d'ailleurs. Hein. Et ça m'a changé ma vie, vraiment. Je me suis dit, cette beauté, cet environnement, j'ai envie d'y revenir. Mmh.
Voilà. Mais alors, c'est là que vous vous êtes dit, je veux devenir guide?
Non.
Parce que vous avez quand même attendu longtemps, on va le voir. Vous avez attendu l'âge de 43 ans pour faire la formation.
Je suis un peu lent.
Vous êtes un peu lent.
Non, c'est pas là. Je dirais que là, j'ai attrapé le virus. Parce que, vous savez, vous faites faire de la montagne à 100 personnes et il y en a deux qui vont se passionner. C'est assez mystérieux, mais c'est comme ça. Et là, j'ai été touché par ce choc, on va dire, avec la montagne. Et donc, je suis rentré à ce moment-là dans la connaissance de l'alpinisme, qui est une culture, en fait. Et j'en crois que l'alpinisme est un sport. L'alpinisme n'est pas un sport. L'alpinisme, c'est véritablement une culture. On a à découvrir ceux qui sont passés avant nous, cet environnement exceptionnel dans lequel on est invité. J'ai envie de dire, tout le monde est invité. C'est un espace ouvert de par la loi française, d'ailleurs. Il est interdit de fermer la montagne, on ne peut pas l'interdire. Donc c'est quand même tout à fait, c'est quasiment exceptionnel.
Mais ce qui veut dire, c'est le petit garçon, enfin le jeune garçon de 12 ans s'est plongé dans les livres de Rebuffa, de Frison Roche.
Voilà, exactement, c'est exactement ça. Premier de cordée, Glace-Neige et Roc de Rebuffa. Et puis à l'écoute de ce qui se dit dans les rues de Chamonix, dans les soirées où les gens redescendent de la montagne et vous racontent leurs aventures, parce que l'alpinisme, c'est une expérience de vie très forte.
Alors, on en reparlera, Hugues Chardonnay, mais j'aimerais savoir quand même comment le petit garçon qui vit cet émerveillement dans la montagne à 12 ans, finalement, ne décide pas de partir comme guide, se former comme guide à Chamonix, mais fait des études de médecine. C'est quoi, c'était aussi une autre passion, la médecine, qui était presque aussi forte.
Mais l'essentiel de la vie d'un petit garçon qui vit en région parisienne, dans l'Essonne, à Évry, pour pas nommer la commune dans laquelle nous habitions, c'est d'aller à l'école, de réussir sa vie, et puis dans une culture familiale très ouverte, on va dire, sur la question religieuse aussi. Parce que moi, je suis né dans une famille chrétienne, catholique, où j'étais dans une école, comment dirais-je, catholique. Mm-hmm. Et donc, j'ai été aussi, en même temps, on va dire, hein, extrêmement impressionné par la découverte de Jésus-Christ. Et j'ai eu cette chance. Vraiment, moi, je veux dire que je suis un chanceux de la vie, c'est un scandale, quoi. Comme je dis des fois un peu en rigolant, mais il faudra bien que je paye un jour pour tout ce que j'ai reçu.
Ça, c'est très judéo-chrétien.
Non, oui, voilà, c'est ça, le fouet.
J'ai eu le fouet, là, j'ai reçu, je suis heureux. Aïe, qu'est-ce qu'il va falloir que je paye un jour?
Je le vis pas comme une punition qu'il faudrait. Mais vraiment, je me dis, mais la vie est particulièrement injuste, j'en suis le signe, le témoin.
C'est-à-dire que vous avez toujours eu la foi?
Alors j'ai eu une expérience j'ai été touché assez jeune, aux alentours de 12 ans également, par une expérience mystique dans une retraite qui a fait que depuis ce jour-là, j'ai la chance effectivement d'avoir une conviction très très forte que véritablement il y a une lumière qui ne m'a jamais quitté, qu'il y a une lumière qui nous accompagne et que l'amour est plus fort que la mort. Et donc ça m'a permis de vraiment de progresser toute ma vie et ça a orienté tous mes choix, mon choix d'orientation professionnelle. Mes parents qui voulaient que je sois ingénieur, ben je dis je préfère faire de la médecine parce que j'aime être avec les gens, j'aime les accompagner. Mmh. Ça me passionnait, puis je rêvais effectivement de soigner. Et puis, ça m'a orienté également dans ma vie de recherche spirituelle, parce que le questionnement spirituel qu'on peut avoir par exemple, en allant à la messe, et des fois un petit peu, pas stérile, mais un peu des automatismes. Et ça m'a amené justement également à beaucoup travailler sur la connaissance des textes bibliques, de faire la formation du cycle C à Paris, et de me spécialiser un petit peu en exégèse. Alors tout ça était en commun, c'est pour ça que vous me disiez, est-ce qu'on peut être guide comme ça quand on découvre la montagne à 12 ans? Je dis non, pas du tout. Ça s'est fait petit à petit, et j'ai envie de dire, après avoir découvert la montagne, j'ai vécu ma vie où était un peu enfoui ce rêve, même si j'ai pratiqué l'alpinisme et surtout l'escalade pendant des années.
Visage, RCF.
Hugues Chardonnay, en vous écoutant là depuis un instant, je trouve quelque chose de très beau dans votre histoire, lié à cette période des 12 ans, l'émerveillement de la haute montagne, et puis cette expérience spirituelle que vous avez vécue. Alors, sans vouloir être indiscret, vous aiguisez ma curiosité. J'ai envie quand même d'en savoir
dommage.
Un peu plus. Qu'est-ce qui s'est passé, là, lors de cette retraite, quand vous aviez 12 ans, qui a rejoint votre cœur et qui a fait que vous avez aujourd'hui encore une certitude et que vous êtes habité par la présence de Dieu? Qu'est-ce qui s'est passé?
Il s'est passé rien d'original. Moi, je ne vais pas vous raconter une vision mystique ou une parole qui m'aurait été... On était dans une retraite pour préparer la communion, comme on dit toujours, pardon.
La profession de foi.
Et voilà. Et donc, dans ce côté un petit peu collectif, automatique, et bien, au milieu de cette réalité-là, et sans doute portée par les personnes qui nous accompagnaient, dont je ne sais plus le nom, c'est horrible, hein, mais donc on aimerait rendre aux personnes qui nous ont donné ce cadeau magnifique, qui était quand même une expérience spirituelle où on nous amenait à nous questionner sur le sens de ce que l'on vivait, sur le sens de ce que peut nous apporter le Christ, la bonne nouvelle, et comment s'ouvrir au monde. Eh bien, effectivement, j'ai eu cette illumination qui était quasiment physique dans un moment de prière qui m'a ouvert sur cette réalité d'un chemin qui s'ouvre dans une vie. La vie n'est pas fermée. Donc on a une vie et que dans cette vie, il y a une énergie, une lumière, un axe qui s'ouvre et qui n'est pas négatif. Et voilà, donc je me suis, à partir de ce jour-là, eu cette chance de ne pas être seul, on peut dire.
Et ça ne vous a jamais quitté. C'est-à-dire que depuis l'âge de 12 ans, vous avez toujours cru au Christ et à Dieu dans la tradition catholique.
Alors c'est petit à petit, effectivement, que c'est devenu véritablement une foi dans Jésus-Christ. C'était plus confus, certainement, au départ. C'était une expérience quasi physique, hein, de bonheur intérieur et de lumière, de bien-être qui me vient de l'extérieur. Et ce petit à petit, cette expérience a pris sa véritable origine dans le Christ par ma culture, par le travail que j'ai fait, en particulier dans la lecture des évangiles.
Alors Hugues Jardonnet, je le rappelle, vous êtes guide de montagne, médecin du sport, et puis diacre de l'Église catholique. Je sais qu'il y a un homme qui vous a beaucoup inspiré quand vous étiez jeune, c'est le docteur Schweitzer. C'est vrai ?
Oui, mais bien sûr, on peut pas ne pas être touché. Et quand on connaît l'histoire de Schweitzer, quand j'étais gamin, je me disais, moi, je serais missionnaire. Plus tard, voilà, c'était une évidence, quoi. Mais bien sûr, hein, cet homme, un esprit universel en théologie. En
donc, un médecin, pour ceux qui ne le connaissent pas, oui. Un médecin protestant. Oui. Qui s'est installé au Gabon et qui a créé le fameux centre de l'Ambarena, un grand hôpital au Gabon.
Qui était aussi un grand spécialiste de la musique de Bach et un grand médecin. Ouais. Aussi un humaniste et un théologien, parce qu'il était pasteur.
Il vous a inspiré, il a été un modèle pour vous, pour votre vie et votre choix d'être médecin?
Indirectement, oui. Oui, certainement, mais à côté d'autres, parce que on nous montrait, bien sûr, moi j'étais dans une institution catholique, alors il était de mauvais ton de parler de Schweitzer, évidemment. Hein, parce que...
De prendre un protestant comme
ben
modèle.
Voilà, surtout pas à l'époque. Pas à l'époque. Bon, maintenant, hein. ça passerait mieux, hein, mais ça se faisait pas du tout.
Maintenant, on dit notre frère réformé, et qui est aussi un modèle pour les catholiques.
Ben évidemment, comme bien d'autres, évidemment, pasteurs comme Martin Luther King, ou même d'autres religions comme Gandhi, qui nous éclairent avec leur esprit universel, qui nous élèvent.
Votre idée d'être médecin, c'était d'abord et avant tout d'être dans la rencontre, puisque ce mot a l'air de compter pour vous, c'était aller à la rencontre des autres, aller à la rencontre de celui ou de celle qui souffre.
C'est aller à la rencontre, ça c'est sûr. Je crois qu'aussi beaucoup à l'époque, c'était l'idée du service. Et je pense que c'est ce désir et en même temps cette nécessité qui pour moi émergeait de notre foi chrétienne et de l'évangile, qui s'exprimait très bien dans ce métier-là, dans le métier de la médecine, et ce qui est une réalité. Hein. Moi, je suis très très heureux d'avoir fait médecine, c'est un cadeau de la République de m'avoir offert ces études, et j'en suis vraiment toujours aussi enthousiaste.
C'est intéressant que vous associez le mot « service » au mot de médecine, parce que je crois que le sens du diacre, c'est d'être au service, non ?
Tout à fait.
Oui. Donc vous êtes complètement dans le service, dans votre fonction de diacre et dans votre fonction de médecin.
Oui, je dis toujours, quand on pose la question, on me dit « mais à quoi ça sert d'être diacre ?» Je dis « ça sert à rien, ça c'est clair, mais dans ce que je vis, aussi bien en montagne, dans la vie associative, avec mes amis, en famille ou dans la médecine, eh bien, quelque part, le diaconat, c'est le ciment de tout ça, et c'est ce qu'on a envie de montrer qui ne se voit pas dans d'autres vies. Et c'est finalement le rôle du diacre qui est de montrer tout le service, ce qui est finalement l'expression de la vie du Christ dans chacune de nos réalités et que l'on ne voit pas. Et c'est pour ça que ça a été difficile d'accepter de faire le diaconat pour moi.
Hein. Mais ça, on en reparlera dans un petit moment.
Peut-être.
On ira en montagne dans un instant, mais avant de partir en montagne, nous allons partir du côté du Gabon. On parlait il y a un instant du docteur Schweitzer. Je vous ai demandé, Hugues Jardonnet, de venir avec des musiques qui avaient sens pour vous. Et qu'est-ce que vous avez pris sous le bras ? Vous pouvez nous présenter le disque qu'on va entendre ?
C'est un disque magnifique qui allie deux cultures, la culture de Bach et la culture de la musique africaine, qui nous vient de l'Ambaréné, qui s'appelle l'Ambaréna, ce disque qui a été écrit en partie à partir de partitions de Dr Schweitzer. We'll be right back.
Fabuleuse rencontre entre Jean-Sébastien Bach et la musique africaine grâce à ce disque Lambarena que vous nous avez apporté, Hugues Chardonnay. Donc nous poursuivons sur RCF cette émission au visage en votre compagnie. Je rappelle que vous êtes médecin, guide de haute montagne et puis diacre au sein de l'Église catholique. On pourrait parler de la période où vous êtes devenu médecin et vous avez pratiqué dans la région parisienne. Et vous êtes marié avec Cathy, vous avez eu deux enfants. Puis vous avez décidé de quitter la région parisienne en 1991 pour vous installer du côté de Briançon. Pourquoi ce choix de... C'était pour vous rapprocher de la montagne, enfin, de cette montagne qui vous a émerveillé quand vous aviez 12 ans?
On n'a jamais perdu le contact avec la montagne, avec les enfants et mon épouse, enfin surtout moi. Et on va dire, c'était moi le moteur pour la montagne, ça c'est sûr. Et donc on a eu une difficulté, disons, professionnelle en 90, qui fait qu'il a fallu que je choisisse entre une option soit de continuer dans le journalisme, soit de véritablement me réorienter dans la médecine.
Parce qu'il faut dire, vous étiez à mi-temps dans le journalisme et oui, à mi-temps médecin.
Voilà, ouais. Parce que je travaillais en même temps comme journaliste. Oui. Et donc, on a eu une opportunité d'un poste à Briançon. Et après, on en a parlé ensemble avec les enfants qui étaient au collège et Cathy. Donc, nous avons décidé... sans hésiter d'aller nous installer à la montagne. Ça nous est rêvé, évidemment, depuis bien longtemps.
Alors, de 1993 à 2003, vous avez pratiqué la médecine d'une manière qui fait rêver beaucoup de gens. Vous étiez médecin de secours en montagne. Donc on imagine la scène, on vous voit monter dans un hélicoptère, partir dans la montagne au secours de gens égarés ou blessés en montagne. Et j'aimerais que vous nous parliez de cette période-là. Qu'est-ce qu'elle a représenté dans votre vie de médecin, cette période de médecin de secours en montagne?
C'est un exercice de la médecine, effectivement, qui est spectaculaire. Donc, alors c'est facile d'en parler. C'est sûr que c'est un métier qui est séduisant et qui semble comme ça admirable, alors qu'en fait, bon, ben c'est un métier qui est comparable à ce qu'on appelle le SMUR, le secours d'urgence à l'extérieur de l'hôpital, qui peut se pratiquer en ville avec des accidents malheureusement beaucoup plus nombreux au bord de la route ou dans les maisons, etc. Et voilà, donc nous, effectivement, notre moyen de transport, c'est pas la voiture avec le gyrophare.
Vous, c'était l'hélicoptère.
C'est l'hélicoptère, voilà, dans 80, ouais. Pas tout à fait systématiquement. J'ai fait quelques secours à pied, quelques gros secours même à pied. Mais l'essentiel des secours se passe en hélicoptère. Alors effectivement, la raison d'être, c'est simple, hein, c'est qu'en montagne, les gens qui vont se promener même, puisqu'il faut savoir que la moitié des secours en montagne sont en moyenne montagne, mais ces sentiers de montagne ne sont pas accessibles aux véhicules des pompiers ou à une voiture. Et donc, pour raccourcir les délais de contact avec le blessé, eh bien, on utilise l'hélicoptère, qui est le seul moyen existant. Et puis, ça permet aussi souvent, même si le médecin ne fait pas souvent des gestes très impressionnants, d'extraire une personne qui serait peut-être morte de froid parce que si elle avait passé la nuit, par exemple, en montagne. Voilà, on a des dizaines et des dizaines d'histoires à raconter quand on a fait du secours en montagne.
Alors, j'en veux pas des dizaines, mais j'aimerais quand même que vous nous racontiez une ou deux histoires que vous avez vécues et qui vous a marqué quand même, qui vous a impressionné dans ces 10 années passées à être médecin de secours en montagne.
Je vais vous en raconter une ou deux belles, parce que c'est, je vais pas vous donner des histoires sordides et dramatiques, parce qu'évidemment, une très belle histoire, c'est le métier du médecin du secours en montagne est très particulier parce que nous sommes à l'hôpital, en blouse blanche, en train de soigner quelqu'un, de faire une suture, de voir une personne qui a fait un malaise dans le cadre chauffé, climatisé de l'hôpital. Et puis, l'alerte arrive. Et puis, à tour de rôle, on est de service pour la montagne. Donc, l'alerte arrive, vous changez votre blouse, vos chaussures, vous mettez les chaussures de montagne, une veste de montagne, vous prenez un sac. Et bah, on regarde évidemment... quelle est la nature de l'accident. Et puis, donc par exemple, ce jour-là, on était en milieu d'après-midi et on apprend qu'une cordée a fait une chute sur un sommet à 3500 mètres d'altitude. C'est une après-midi un peu brumeuse, mais il fait un temps très correct. Donc je prends mon sac, ma veste, on monte dans l'hélicoptère. Il y a le responsable du secours qui est un secouriste des gendarmes qui est là. Il y a le pilote et puis le copilote, enfin le mécano comme on dit, et on part. On part, on arrive, tac, on repère nos quatre blessés au pied d'un couloir. Ils avaient débarroulé dans un couloir sur une centaine de mètres. Et on voit tout de suite qu'il y en a deux qui vont bien et deux qui sont atteints assez gravement. Donc on a, en gros, jeté les deux qui vont bien dans l'hélicoptère. Et je me retrouve avec le secouriste, avec nos deux blessés, dont un avait probablement une blessure du rachis, enfin de la colonne vertébrale, l'autre une plaie assez grave du visage. Et on commence à prendre les soins pour qu'il soit transportable, à réaliser les soins, pardon. Mmh. Et puis là, on lève le nez avec le secouriste, c'est quelqu'un que je connaissais bien, on s'entend bien. On voit que on était dans les nuages. Le temps s'était couvert. Et là, le changement de configuration est immédiat, c'est-à-dire que l'hélico ne peut plus monter. Et donc, on est à 3500 mètres, il est 6 heures du soir.
Ce qui veut dire que vous étiez coincé, vous aussi, avec les deux blessés.
Avec nos deux blessés, sympathiques, au demeurant. Mmh. Mmh. Et grâce à eux, on a mangé, parce que nous, on n'avait pas amené à manger. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a creusé un igloo dans un cône d'avalanche. On a introduit nos blessés dedans, on s'est installé dedans. On s'est préparé à passer la nuit tranquillement avec la perfusion plantée dans le mur avec un piolet. Et puis, on a mangé grâce aux vivres qu'il y avait dans les sacs de nos deux blessés, avec qui on a commencé à faire connaissance. Et en fait, c'était deux jeunes qui faisaient un voyage de noces. Ils se préparaient à se marier un mois plus tard. Ils s'en souviendront. Alors, je vous passe tous les détails, évidemment, de la vie dans une petite grotte de neige toute une nuit. Au milieu de la nuit, des collègues qui arrivent en pleine tempête, parce qu'entre-temps, il neigeait, pour nous aider. Bon, ils n'avaient pas amené à manger. Donc, on a agrandi la grotte.
Et eux, ils étaient montés à pied.
Ils avaient mis 7-8 heures pour monter. Hein. On a agrandi la grotte. Et puis, l'histoire se termine bien. C'est qu'à 6 heures du matin, il y avait une éclaircie. Et
l'hélicoptère
est venu nous chercher. Et les jeunes mariés se sont mariés un mois plus tard.
Est-ce que c'est vraiment grisant de faire ce métier-là et de se dire que on part en montagne dans des situations parfois risquées hein, et parfois scabreuses ou terribles. Mais est-ce qu'on a vraiment le sentiment de sauver des vies?
Personnellement, je dis tout de suite non. Je trouve que c'est une expression odieuse. Dans 90% des cas, en fait, on rend un petit service, souvent assez modeste, mais qui effectivement peut sauver une vie, hein. Il faut le reconnaître. On est simplement un maillon de la chaîne, qui est une grande chaîne qui commence lorsque une personne appelle au téléphone. La personne qui répond, qui régule, fait des fois la moitié de l'importance du secours, ne pas se tromper, quel moyen, où aller, etc. Le pilote d'hélicoptère qui est très important, est-ce qu'on peut atteindre ce lieu-là? Le mécanicien qui saura nous donner aussi des indications pour la dépose au sol. Le secouriste à côté qui fait la sécurité. On n'est vraiment qu'un tout petit élément dans cette chaîne qui fait qu'après, le blessé va se retrouver à l'hôpital, sera peut-être opéré par un chirurgien, soigné par des infirmières, bichonné par des aides-soignantes qui l'aideront à vivre d'heure en heure. Et franchement, j'ai jamais eu cette sensation de sauver des vies. Je supporte pas cette expression que je trouve complètement cow-boy.
Vous n'êtes pas un super-héros.
Vraiment, non. Je suis un anti-héros, absolument. Ça a convaincu.
Hugues Chardonnay, on parle beaucoup aujourd'hui de l'imprudence de certaines personnes en montagne, de gens non préparés qui, je caricature, mais qui montent presque en tongs en montagne. C'est vrai, ça? Vous le constatez depuis les années où vous êtes en montagne, qu'il y a de plus en plus d'imprudence en montagne?
Franchement, je crois pas. Il y a pas plus d'imprudence. C'est un peu un mythe de journaliste, hein, excusez-moi.
Non, allez-y.
Parce qu'on aime bien dire que la montagne, c'est dangereux. Ça fait la une de tous les papiers de l'été. Et les montagnards, les alpinistes en particulier, ont légèrement un ego surdimensionné, donc ils aiment bien dire que ce qu'ils font, c'est vraiment un truc de surhomme. Alors, les deux sont faux, évidemment. Tout le monde peut faire de l'alpinisme. Il n'y a pas besoin d'être un super-héros. Et la montagne est ouverte. Et donc, beaucoup de gens peuvent y accéder et ne sont pas obligatoirement des gens imprudents. Alors, bien sûr, il y a des gens qui font n'importe quoi, qui n'ont pas eu cette culture que j'ai eu la chance d'acquérir petit à petit et qui font que... Eh bien, on sait ce que c'est qu'une crevasse, on sait ce que c'est qu'une chute de pierre, on sait qu'une dalle, ça peut être glissant et qu'en bas, il y a une falaise, etc., etc. Et on va essayer de pas se mettre les pieds dans le tapis. Mmh. Mais franchement, je pense pas qu'il y ait vraiment d'augmentation des conduites dangereuses en montagne.
Alors, je vais faire le journaliste qui enquête. Mais On parle quand même de plus en plus d'accidents en montagne. On parle d'attitudes un peu délirantes, on l'a vu dans l'Himalaya, notamment avec les ascensions de l'Everest qui sont devenues commerciales et non plus sportives. On voit un nombre impressionnant de personnes qui tentent le Mont Blanc, beaucoup plus qu'avant. Donc là, pour vous, rien à déclarer.
Je suis content que vous disiez ça, parce que ça, c'est ce qui fait la motivation, on va dire, de la création de l'association 82-4000 Solidaires. Enfin, une des motivations, c'est que, d'une part, l'image de la montagne qui est véhiculée en général est fausse. Mais malheureusement, ce qui est vrai aujourd'hui en montagne, c'est que les pratiquants de la montagne dont on parle le plus, en particulier ceux de l'Everest et ceux du Mont Blanc, sont effectivement des gens qui sont représentatifs de ce qu'il ne faudrait pas faire dans le monde d'aujourd'hui, à mon avis, hein, qui commercialise un environnement aussi extraordinaire, aussi beau que la montagne, et alors que on s'aperçoit que cet environnement qui est ouvert, qui devrait être une chance de développement personnel pour tous, pas tous ceux qui ont envie d'y aller, eh bien peu à peu se réserve à des personnes qui ont la chance culturellement, économiquement d'avoir les moyens. Alors arrêtons de parler de ceux qui pourrissent la montagne, on va dire, avec leur façon de la pratiquer, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Ça, c'est sûr. Hein.
Mais on peut pas nier le fait qu'il y a une certaine catégorie de personnes qui font de la montagne avec, un certain ego. Il faut avoir fait le Mont Blanc. Il faut avoir fait le Kilimandjaro ou il faut avoir fait l'Everest.
Ça fait
partie du pack, d'accord?
L'essentiel des gens qui font le Mont Blanc sont des gens qui ne reviendront pas en montagne. Donc, ce ne sont pas des alpinistes pour nous. C'est-à-dire que c'est des gens, effectivement, qui font le Mont Blanc pour faire parler d'eux. Voilà. Alors que moi, ce que j'ai envie de dire...
Pour dire, j'ai fait le Mont Blanc.
Voilà, j'ai fait le Mont Blanc. Dans un salon, on pourra dire, j'ai fait le Mont Blanc. Voilà, exactement.
Ouais. Visage, Thierry Lyonnais.
Hugues Chardonnay, c'est à 45 ans, en 2003... que vous avez décidé de commencer votre formation de l'ENSA, l'École Nationale de Ski et d'Alpinisme de Chamonix. C'était un vieux rêve d'enfance que vous avez repoussé parce que votre vie de médecin vous le permettait pas. Qu'est-ce qui a fait qu'à 45 ans, on décide de faire cette formation exigeante quand même pour devenir un guide officiel, de montagne?
Vous avez parlé de rêve et effectivement, vous avez raison, c'est un rêve de gosse. Et j'ai un très bon ami qui est un grand alpiniste, lui, et qui un jour m'a dit, mais avec son accent là, de Goyeux, Christophe Moulin, il me dit, un rêve de gosse, ça se réalise. Alors, et il avait raison, il me faisait pointer du doigt le fait que cette envie de partager ce qui me passionne, la haute montagne, avec tout ce que j'ai toujours aimé faire, c'est-à-dire que j'ai emmené mes scouts quand je faisais du scoutisme, ma famille, des amis, toujours... J'ai rarement finalement fait de la montagne tout seul, c'était toujours en partageant avec quelqu'un. Et cette réalité-là, elle émergeait, mais quelque part, je me mettais un frein en me disant « c'est pas pour moi, toi, t'as déjà été assez... t'es déjà médecin, t'as une famille, qu'est-ce que tu vas aller faire là-dedans » Qu'est-ce que ça va... Est-ce que tu as le droit, le côté un peu négatif de notre culture chrétienne? Et puis, donc là, ce sont des amis qui m'ont poussé, qui m'ont dit, mais t'as le niveau, tu grimpes, tu cours devant, etc. Il n'y a pas de souci. Et donc, un jour, je me suis inscrit et je l'ai fait.
Mais Hugues Chardonnay, est-ce qu'il y avait déjà en vous l'idée de créer cette association que vous avez créée, 82-4000 Solidaires, c'est-à-dire ce désir d'accompagner des gens qui ne mettront jamais les pieds en montagne? Et encore moins en haute montagne, parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce qu'ils sont de milieux défavorisés. Il y avait cette idée en faisant votre formation de guide ou pas du tout? C'est venu après?
Eh bien, pas du tout. C'est venu après. Voilà, ouais. Merci. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est assez simple. Hein. C'est pour ça. Entre autres, c'est une des raisons pour lesquelles je ne regrette pas du tout de l'avoir fait. Je suis très heureux et même fier d'appartenir à cette confrérie des guides de haute montagne qui est... une toute petite confrérie, hein, on est une poignée et 1500 guides actifs, je crois, quelque chose comme ça. Hein. Et c'est quand j'ai commencé à pratiquer le métier, entre la fin du stage d'aspirant guide et le stage de guide, puis après le stage de guide, on commence le métier donc assez vite. Je me suis aperçu de deux choses. Tout d'abord, moi j'avais déjà un bagage professionnel qui fait que je voulais pas piqué le travail de mes jeunes confrères qui avaient une famille à nourrir, etc., qui eux cherchaient des clients absolument, ils avaient besoin. Et puis d'autre part, je me suis aperçu que on accompagne en montagne essentiellement, mais dans une immense majorité, des gens aisés. Aisés, comme je le disais tout à l'heure, sur le plan culturel ou sur le plan économique, souvent les deux.
On va être clair. Louer le service d'un guide de haute montagne aujourd'hui, oui. C'est quoi 400 euros.
Oui, à peu près. Oui,
pour voilà, la journée.
Ouais. Et puis, il faut du matériel. Mm-hmm. Et puis, il faut dormir en refuge. Et puis, il faut se déplacer. Donc, il faut faire beaucoup de kilomètres. Enfin, donc, tout ça coûte extrêmement cher. Mm-hmm. Et je me suis aperçu qu'il y avait quelque chose d'extrêmement cruel. Et en même temps que la montagne, dans son côté très symbolique, pouvait sans doute dire quelque chose de fort dans la société dans laquelle on est. Et on s'est dit avec quelques amis amateurs de montagne et guides, si on avait le culot et la possibilité d'emmener des gens qui sont nés dans la laideur d'un faubourg, d'une banlieue, qui plus est des gens stigmatisés depuis leur plus jeune âge parce que la couleur de leur peau, leur origine sociale ou parce que leurs parents sont pauvres ou pour leur orientation sexuelle se sont retrouvés dans la rue, qu'on puisse emmener ces gens en haute montagne, là où c'est si beau, là où moi j'ai été ému quand j'étais jeune. Je me dis, eh bien là, il y aura quelque chose à dire d'une société qui partage ce qu'elle a de meilleur avec ceux qui en sont démunis. Et là, on pourra croire qu'effectivement, il y a un développement possible pour tout le monde dans cette société. Mmh. Et alors, on est parti de peu de choses. On s'est dit, bah tiens, on va emmener. Bon, moi, à l'époque, j'étais un peu militant ATD. On s'est dit, on va aller...
Alors, ATD Carmont,
oui, pardon.
Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une organisation fondée après la Deuxième Guerre mondiale pour être... proche et vivre avec des personnes très défavorisées.
Voilà, oui, c'est le père Brzezinski qui a créé cette association.
Avec Geneviève Antonios de Gaulle aussi.
Voilà, qui était la première présidente. Mmh. Et l'idée de Brzezinski, c'est de dire vivre aux côtés des pauvres, avec des personnes en grande précarité, lutter contre la misère, qui était vraiment la chose qui le révulsait le plus, et de façon à monter avec ces personnes, un projet, ces personnes qui ont plus à nous apprendre souvent, parce qu'elles se battent tous les jours pour survivre, elles ont plus à nous apprendre que nous avons à leur apprendre.
Alors vous, le médecin guide de haute montagne, vous décidez avec quelques amis montagnards de créer cette association au nom bizarre. 82-4000 solidaires. Alors, expliquez-nous le nom de cette association.
Et ben voilà, c'est pour vous cultiver, parce que la montagne est une culture. Alors en fait, c'est très drôle. C'est que...
Grâce à vous, j'ai appris qu'il y avait... 82 sommets
de plus de 4000 dans les Alpes.
4000 mètres dans les Alpes, voilà.
Ben oui, parce qu'en fait, le principe de base de l'association, c'est de se dire, nous, on est des passionnés de montagne, on rêve de faire de la montagne, de continuer à en faire, et on va aller partager ce rêve avec des personnes qui, évidemment, n'ont jamais rêvé de ça, parce que, d'abord, parce que souvent, dans des secteurs de la société où on rêve même plus tellement, on est empêtré dans le quotidien, et puis, parce qu'ils connaissent pas la montagne. Donc, c'était un rêve partagé. Et donc, un des premiers groupes d'ATD Carmont de Lyon et de Saint-Etienne, d'ailleurs, avec notre ami Nico, parce que c'est devenu un ami maintenant, on lui a expliqué que nous, on restait passionnés et que notre rêve, c'était de faire les plus beaux sommets des Alpes. Les plus beaux sommets des Alpes, c'était des 4000. Puis nous, en intellectuel, notre assos, au début, on l'avait appelé Altitude. Voilà, c'était très bien. Et eux, ils n'arrêtaient pas de nous appeler « Vous les 4000, vous les 4000 ». On s'est dit « Mais il a raison, notre association, elle s'appelle pas Altitude, elle s'appelle... Donc on l'a appelé 82-4000 parce que officiellement dans les Alpes européennes, donc en fait dans trois pays, hein, Italie, Suisse et France, il y a 82 sommets qui font plus que 4000 mètres d'altitude.
Et votre objectif, c'était de tous les faire ou c'était surtout d'essayer d'accompagner quelques personnes du Carmont, des banlieues, essayer de faire des 4000?
Alors oui, non, l'objectif, c'est pas de faire des 4000 avec des personnes en situation de grande précarité économique, puisque c'est l'objet. Donc nous, c'est pas que des jeunes. D'ailleurs, tout à l'heure, vous avez dit des jeunes, oui. Beaucoup de personnes de tous les âges, on va dire. Hein, très peu de, par contre, d'adolescents ou de préadolescents, ça quasiment pas. On fait ça avec des adultes. Voilà. Et donc l'idée, c'est vraiment de leur faire découvrir sur un stage, en gros, d'une semaine. La montagne et l'alpinisme sur une semaine.
Et ça suffit?
Quelle que soit la saison.
J'imagine.
C'est déjà pas mal.
J'imagine une personne de Marseille, parce qu'il y a beaucoup de Marseillais qui montent à Briançon. J'imagine des personnes de Marseille, des quartiers nord de Marseille, qui n'ont jamais mis les pieds en montagne, vous les emmenez en haute montagne au bout d'une semaine?
Bien sûr.
Crampons, piolets,
tout le monde peut faire de la haute montagne. Il y a pas de, il faut simplement, c'est le boulot du guide, c'est d'adapter le niveau des courses aux personnes qui sont présentes. Donc là, on organise la rencontre de la montagne partagée sur Lyon justement demain, et il y a des d'anciennes stagiaires qui vont venir de Marseille, qui vont vous raconter ce qu'elles ont vécu. Et sur chaque stage, on est très attaché à. D'abord, nous, on est des guides, donc on sort la corde. On s'en corde, on pourra en parler, la cordée. La cordée, c'est vraiment... Michel Serres nous disait l'année dernière, à la rencontre de la montagne partagée que nous avons organisée, il disait, la cordée, c'est le meilleur exemple, de cohésion sociale qu'on puisse imaginer. C'était avant que notre président utilise cette métaphore. Et c'est vrai que...
Qu'est-ce qu'elle symbolise, cette cordée, alors?
La cordée, c'est... On a besoin l'un de l'autre, d'abord. Donc, toi, tu travailles pour ma sécurité. Moi, je travaille pour ta sécurité. S'il y en a un qui fait faillite, si je puis dire, c'est toute la cordée qui est en danger. Et c'est cet ensemble vers un objectif que l'on a rêvé, tous les deux, tous les trois, tous les cinq, que l'on progresse. Et c'est dans cordée qu'on arrive au sommet. Et le sommet, c'est vraiment une expérience qu'il faut avoir fait dans sa vie. C'est quelque chose d'exceptionnel d'arriver sur un sommet. Même si c'est très, très bref, ça peut vous nourrir, vous illuminer de toute votre vie.
Alors, Hugues Chardonnay, dans un instant, vous nous expliquerez les bienfaits de la montagne. Et nous allons écouter un autre extrait de musique que vous nous avez apporté, le Dixit Dominus de George Friedrich Händel. Vous écoutez ce Dixit Dominus de Händel de temps en temps quand vous êtes en haute montagne, Hugues Chardonnay?
J'écoute pas de musique en haute montagne.
Vous n'avez pas un petit Walkman avec
non,
vous?
Non, non, j'ai pas ce tic-là ou ce toc-là, je sais pas, c'est sûrement un tort, hein, mais non, la montagne nous occupe beaucoup, hein, et quand on est guide en particulier, on a une attention, on va dire, de chaque instant, qui est importante, je pense que j'aurais eu du mal à écouter de la musique en même temps.
Alors, je le rappelle, vous avez fondé avec des amis alpinistes, montagnards, cette association 82-4000 solidaires. Quels sont les bienfaits que cela apporte à des personnes, on l'a vu, de milieux défavorisés, de banlieues, d'ATD Quart-Monde, qui n'ont jamais fait de montagne, que de se retrouver derrière vous encordé avec des crampons et à grimper.
Faire un sommet. On a rêvé de faire un sommet.
C'est important. C'est aller au sommet. Oui. Vous visez le sommet. C'est pas juste se promener en montagne.
Non, c'est un stage que l'on construit toujours de cette façon-là. Mmh. On va aller vivre en montagne avec des gens de la montagne. Donc, ils vont expérimenter justement cette solidarité un peu naturelle des gens de la montagne. Il n'y a pas qu'à la montagne. Hein. J'en suis certain. Mais là, c'est le cas. Et ça va être pour eux une expérience fondatrice, parce que effectivement dans cet environnement sauvage, exceptionnel, beau, et en même temps complètement hostile. C'est la première fois qu'on voit en montagne, on a l'impression que là, les rochers vont vous tomber dessus, qu'on va glisser, qu'on va tomber. Enfin, c'est la verticalité, c'est impressionnant. Et on va, avec l'aide des guides et des accompagnants qui seront là, on va les amener sur un sommet qui est possible pour eux. Donc ils vont le rêver, on va le faire ensemble. Et pour ça, on va aller passer 2 jours en montagne, coucher dans un refuge. Ils seront accueillis par une gardienne ou un gardien qui va les recevoir comme on reçoit un monsieur ou une dame. Et ça, c'est voilà, une accumulation d'expériences très fortes et en même temps très constructives, très positives.
Mais qu'est-ce que ça va faire grandir en eux ? Je sais pas, la confiance en eux, par exemple, c'est quelque chose ?
Un des éléments, effectivement, que la montagne nous offre, à tous, hein, c'est pas spécifique à des personnes, là il se trouve que c'est leur première expérience, c'est le possible de ce que je peux rêver, puisque le rêve peut se réaliser, je suis une personne en capacité de réaliser un rêve qui était en moi. Donc ça, je pense que véritablement réaliser ses rêves, c'est un propre de la personne humaine par rapport à l'animal. Et c'est véritablement quelque chose qui élève notre dignité. Et quand quelqu'un, on va entendre des témoignages d'anciens stagiaires demain à cette rencontre, beaucoup diront, je pensais vraiment que c'était pas possible pour moi, maintenant j'ai réussi. Donc je vais réussir d'autres choses dans ma vie.
Oui, ça, c'est... J'ai lu un très beau témoignage sur votre site internet d'une jeune femme un peu forte,
ah, oui, oui.
Qui était au chômage.
Ingrid.
Je sais pas, qui avait toujours été au chômage et qui a réussi avec vous à gravir une montagne.
Oui, elle a franchi des crevasses. Ouais. Elle avait beaucoup marqué. Elle avait très, très peur de franchir une crevasse. Et puis, finalement, elle l'a fait. Et à la fin du stage, quand on est un peu autour d'un dernier repas, on se racontait ce qui nous avait le plus marqué. Elle nous a dit une chose qui nous a beaucoup touchés. Elle a dit, moi, j'ai franchi une crevasse. J'aurais plus peur d'aller à un entretien d'embauche. Mmh. Elle avait plus de 30 ans. Elle avait jamais osé aller à un entretien d'embauche. Mmh. Et il se trouve que quand elle est rentrée, une semaine après, elle avait un entretien. Et cet entretien,
Elle a été prise.
Elle est rentrée dans ce métier. Elle a maintenant un CDI. Mmh. Elle travaille. Et ça se passe très bien pour elle.
Des belles histoires comme ça, vous en avez beaucoup.
La montagne nous en offre énormément, de très très belles. Alors sur le terrain, les guides vous raconteront aussi toutes les galères, parce que évidemment, quand on a peur, quand on connaît pas, quand l'environnement est hostile, pour peu qu'il fasse un peu froid et que ce soit plus long qu'on ne le pensait, évidemment, il y a des freins, ça peut être tendu parfois.
Alors justement, comment faites-vous, Hugues Chardonnay, quand vous êtes avec... Vous avez combien de personnes avec vous ? Vous accompagnez quoi ? 2 personnes ?
Ça dépend de la difficulté de la course.
Je parle par guide.
Ça dépend de la difficulté de la course. On peut être sur un glacier très facile, avoir 6 personnes sur sa cordée, c'est très sûr, il n'y a pas de problème. Mmh. Et puis il y a des courses où on ne peut pas prendre plus qu'une personne. Mmh. Alors dans les stages que nous faisons avec l'association 82-4000 Solidaires, ce sont des petits groupes. La montagne, la haute montagne s'accommode assez mal. Pour aller sur les glaciers,
donc
sur les arêtes.
Petit groupe,
on est
c'est combien ?
Maximum 12 personnes, quoi. Voilà, 10-12, avec les accompagnants. Et selon la difficulté, il y a des jours où il y aura 2 guides, voire 3, et il y a des jours où il y a 1 seul guide.
Alors, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes avec une personne qui bloque, qui a peur, et que la peur la paralyse, et qu'elle ne peut plus monter ou elle ne peut plus descendre ?
Ouais, ça peut arriver des
ça
fois.
Ça vous est arrivé, ça.
Bien sûr. Alors, je me souviens d'Alexandre qui arrivait d'un quartier de Lille où il avait passé la moitié de l'année dehors. Donc lui, pourtant, il avait dû avoir peur un certain nombre de fois dans la vie parce que vivre dehors, ça fait peur.
Mais d'autres peurs.
Dans la rue, voilà, exactement. Et au milieu d'une via ferrata qui est assez longue, il faisait froid ce jour-là. Donc il a bloqué. Il a bloqué et là, j'ai envie de dire, on n'est pas bien, quoi, parce qu'il peut plus monter, il peut plus descendre.
Et vous,
on
vous
est restés tous les
lui,
deux. Le reste du groupe a continué. Je l'ai installé sous une petite couverture de survie. On a sorti le thé chaud. On s'est raconté quelques blagues. Je lui ai passé ma veste de duvet parce qu'il avait froid. Il s'est réchauffé. Et puis finalement, quand on a enlevé la veste, que le soleil s'était levé, il était là, il était toujours vivant. Moi aussi. La montagne n'avait pas bougé. L'échelle du dessus, elle était toujours là. Il s'est dit, peut-être que je peux continuer. Et puis, il a continué. Et puis, il est sorti au sommet. Et ça a été pour lui, quand je l'ai au téléphone, parce que je l'ai eu il n'y a pas très longtemps, il s'en souvient comme si c'était hier. Hein. Et ça, malheureusement, il n'est pas complètement sorti de la galère, Alexandre. Mais ça, c'est pour lui une expérience qui l'a beaucoup marqué et qui l'aide encore.
Hugues Chardonnay, qu'est-ce que vous aimez tant en montagne. Et là, indépendamment de ce que vous faites avec votre association, je dirais, vous, personnellement, quand vous marchez en montagne, quand vous gravissez une falaise, qu'est-ce que vous aimez tant ?
Alors, on peut dire, je crois, qu'on aime l'environnement de montagne, la beauté, la qualité du rocher, le contact avec le lichen, le contact avec ça, c'est étonnant. Il faut être grimpeur, on va dire, pour avoir ce contact-là. Mais donc c'est sûr que l'aspect esthétique, vraiment pour moi, est très important. Et je comprends bien quand Michel Serres dit que la beauté est éducatrice. Et je pense qu'à chaque fois qu'on a eu une expérience de beauté en montagne, on en revient grandi. La montagne nous a donné quelque chose. Elle l'a pas perdu, elle l'a toujours, comme toujours. Hein. Quand en éducation, hein, on se donne, mais on garde. C'est magnifique. Et ça, c'est la première chose. Et surtout, c'est une question qu'on me pose souvent. On me dit, quelle est la montagne que vous préférez? Je dis, la montagne, c'est la montagne où j'ai eu un beau partage avec quelqu'un.
Donc, c'est forcément dans la relation, alors.
Très souvent. Les deux,
pour moi, sont très importants. Vous partez pas en solitaire dans la
montagne. Si, parce qu'un guide qui a besoin pour s'entraîner. Donc, je vais courir dans la montagne une journée, une demi-journée. Bon, bah là, j'y vais tout seul, bien sûr. Hein, et je m'arrête pour regarder à quel point c'est beau.
Alors, c'est ça, parce que vous avez eu une expérience mystique à l'âge de 12 ans. Et je me demandais, mais cet homme qui a vécu cette expérience-là, qui est un cœur à cœur avec Dieu, c'est de la solitude, là, face à Dieu, une rencontre, mais dans la solitude. Est-ce que vous n'avez pas besoin, de temps en temps, de partir seul en montagne pour contempler la grandeur du Créateur dans la montagne?
Pour moi, l'expérience du Créateur dans la montagne, c'est quand la montagne est bien habitée. Lorsqu'on a une cordée qui s'entend bien, qui fait un beau sommet, même avec, si ça a été difficile, même si comme on dit grossièrement, si on en a chié, etc. Le fait d'avoir cette expérience qui nous a grandi, là, véritablement, il y a quelque chose de spirituel.
Donc,
parce que ça donne du souffle dans notre vie.
C'est voilà. Dans la relation. Alors, toujours avec
et vous. Si je suis en relation lorsque je monte seul, mais que je suis en relation avec les autres, et si je me dis je le fais parce que je vais pouvoir emmener un groupe, je vais pouvoir continuer à accompagner, je vais pouvoir... Et je pense que c'est dans cette relation à l'autre, et avec un grand A, et avec les autres, seulement que l'autre est présent. Et je ne pense pas vraiment que Dieu soit présent dans les cailloux des pierriers et des sommets des montagnes. Ça, je crois que c'est un peu un mythe qui, pour moi, est une absence.
Mais il est présent dans la beauté qu'offre la montagne.
Oui, surtout si on peut la partager, parce que si vous la gardez pour vous, ça manque d'intérêt.
Je le disais, vous êtes médecin, guide de montagne, mais aussi diacre.
Nul n'est parfait.
Vous voyez un parallèle entre la montagne, l'ascension, et puis la foi chrétienne, votre foi chrétienne?
Ma foi chrétienne, elle m'accompagne partout, comme je vous le disais tout à l'heure, et le diaconat, si je l'ai accepté, sans trop savoir ce que ça représentait véritablement dans l'Église catholique, c'est véritablement parce que je crois qu'il y a cette idée de la rencontre et du service qui noue, on va dire, tous les éléments de ma vie, ou qui sont une sorte de ciment qui a uni tout ça, et que c'est important. Et je pense que c'est pas spécifique à moi, je crois que c'est vrai pour tout le monde. Et donc de le dire, de le montrer, c'est sans doute une des missions de l'Église, une des missions des chrétiens, de dire que dans notre vie il y a quelque chose qui nous transcende, qui nous dépasse, mais qui est de l'ordre aussi simple que d'un amour serviteur.
Voilà. Mais quand vous êtes avec les gens du quart monde que vous aidez, ils savent que vous êtes diacre? Ce qui compte pour eux, c'est que vous soyez guide, et un bon guide d'abord.
Un bon compagnon, surtout, parce que quand je dis on aide pas, on partage, c'est tout. Hein. Nous, la montagne, on la rend accessible. C'est une chance inouïe pour une personne qui a toujours été mise sur la touche de pouvoir aller dans cet environnement exceptionnel. J'ai envie de dire, c'est jubilatoire pour eux comme pour nous. C'est extraordinaire de pouvoir partager ça. Et c'est pas du tout moi qui donne, ou je sais pas quelle espèce de geste charitable un peu méprisant. Non, c'est vraiment, c'est dans cette rencontre là-haut, dans la montagne, il faut qu'il y ait les trois, qu'il se passe quelque chose qui va nous grandir.
Et alors, pourquoi avoir accepté d'être diacre? Qu'est-ce que ça apporte de plus d'être diacre quelque part?
Alors, c'est rigolo parce que on me pose souvent cette question. Moi, quand j'étais, je suis arrivé à Briançon. Nous sommes arrivés à Briançon et effectivement, donc j'allais à la messe le dimanche. Voilà. Donc j'avais fait beaucoup d'animations pastorales dans les paroisses avant. Donc on m'a embauché dans 2-3 trucs. J'étais journaliste. Il fallait s'occuper du journal, il fallait s'occuper des jeunes, il fallait s'occuper etc. Et donc il y avait quelqu'un qui est devenu un très bon ami depuis, qui était diacre depuis, un des premiers diacres en France. Qui tous les dimanches, je lui disais, tu devrais, c'est bien. Alors je lui disais, mais non, mais tu me vois, moi, représenter les fanfreluches de l'Église catholique et tout ça, les dentelles et les dorures. J'y croyais pas du tout, j'y crois toujours pas d'ailleurs. Mmh. Et je me voyais pas être dans cette institution un représentant, entre guillemets. Mmh. Et puis, j'ai eu une conversion incroyable. Alors celle-là, elle est vraie, celle-là. Les autres, elles étaient un peu fantaisistes, celle-là. Mmh. Celle-là, elle est vraie. Je me suis dit, mais t'es vraiment le roi des idiots, mon pauvre. Si... Depuis le relèvement du Christ et ses quelques amis qui étaient bien boiteux, il n'y avait pas eu une structure qui transmit le catéchisme aux enfants jusqu'à aujourd'hui, eh ben, t'en aurais pas bénéficié. Donc j'avais envie de me traiter d'enfoiré. Mmh. On te demande aujourd'hui de porter un petit bout de maillon de la chaîne, c'est quand même pas compliqué. Alors on est rentré dans la formation avec mon épouse comme ça et on est allé jusqu'au bout.
C'est une longue cordée depuis 2000 ans.
Ça fait pas mal.
D'une certaine manière.
Si c'est une génération tous les 15-30 ans, ça fait du monde. Hein. Ouais. Ça fait du monde. Non, mais chacun a sa part. Voilà, c'est ça que je me suis dit. C'était ça, cette espèce de conversion à l'Église au sens institution.
Et elle va mal, l'institution, là, en ce moment. Elle est beaucoup attaquée avec beaucoup d'histoires de pédophilie, d'argent. Mmh. Comment vous le vivez, vous qui en faites partie? Vous êtes dans cette institution puisque vous êtes diacre. Comment vous le vivez? Rapidement.
Oui, très très simple. Moi, je suis pas attaché à l'institution dont je n'attends rien. Donc ça, c'est clair en termes de l'appareil. Mmh. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, l'Église est malade de ce qui doit disparaître. Je pense que l'Église telle qu'elle est aujourd'hui, moi, j'y crois pas du tout, au sens hiérarchie catholique structurée. Elle a fait son temps. On continue à copier un système seigneurial complètement dépassé et qui n'a aucune, à mon avis, aucune racine dans l'Évangile et dans l'exemple de la vie du Christ, qui simplement cherche à nous transmettre qu'il y a une bonne nouvelle à annoncer, qu'un amour désintéressé, ça change le monde et ça fait le bonheur de tout le monde. Et le Christ nous a montré que ce chemin était possible. Alors, évidemment, quand on a dit ça, on n'a pas transmis grand-chose. Mais je me dis, l'image qu'on a aujourd'hui, la trace dans l'Évangile d'une espèce de hiérarchie masculine, ça n'existe pas. Hein. Le premier apôtre de la résurrection, c'est une femme. Et donc, il y a beaucoup de choses à dire. Je pense que ce tremblement de terre qu'on est en train de vivre, il est simplement symptomatique d'une structure... Qui a besoin de bouger, quoi. C'est bien.
Mais vous avez choisi d'y entrer en tant que.
On m'a invité.
On vous a invité, vous avez accepté voilà. Pour être dans cette grande.
Je vais peut-être me faire virer.
Dans cette grande cordée, dans voilà. Cette grande chaîne.
Très bien, d'accord. C'est une cordée.
Écoutez, merci beaucoup, Hugues Chardonnet, d'être venu nous parler à la fois de votre parcours, de votre vie, de médecin, de guide de montagne et de diacre. Et puis pour tous ceux qui veulent des informations sur votre association, y participer, je les renvoie au site internet. Il faut taper 82-4000 solidaires.
Oui, ils auront toutes 8, les informations. 82-4000 et vous dire qu'il n'y a vraiment rien de plus jubilatoire pour vous rendre heureux que de partager ce que vous avez de meilleur avec les plus pauvres.
Merci beaucoup.